France Culture.
Précisément 18h sur France Culture, le journal Juliette Pietraszewski. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, fermeture des bureaux de vote en Allemagne. Qui ressortira gagnant de ces législatives? Les premiers résultats devraient tomber dans quelques minutes. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial. Quel avenir pour l'Ukraine à la veille des 3 ans de l'invasion russe? Volodymyr Zelensky a pris la parole cet après-midi. Il se dit prêt à quitter la présidence immédiatement en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Au Liban, les funérailles de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, mort en septembre dernier dans une frappe israélienne. Avec des dizaines de milliers de partisans du Hezbollah dans les rues de Beyrouth aujourd'hui, reportage dans ce journal. Et puis en France, Mulhouse toujours en état de choc après l'attentat terroriste hier qui a fait un mort. Le principal suspect, né en Algérie, était sous OQTF. Nous entendrons le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les bureaux de vote en Allemagne viennent de fermer leurs portes. Plus de 59 millions d'électeurs avaient jusqu'à 18 heures pour voter. Des législatives sous pression face au retour au pouvoir de Donald Trump à Washington. Les sondages annonçaient la CDU de Friedrich Merz en tête des intentions de vote et une percée historique de l'AfD, le parti d'extrême droite, laissant le chancelier allemand Olaf Scholz et les sociaux-démocrates derrière. Louise Baudet, vous êtes dans un quartier périphérique de Berlin, au siège local de l'AfD, et on est sur le point de connaître les résultats.
Oui, avec déjà des applaudissements, des cris de joie qu'on vient d'entendre à l'instant. Hein. C'est clairement un parfum de victoire qui se mêle ici au fumet des saucisses en train de cuire sur le barbecue. Ambiance bière brasero devant ce siège local de l'AfD de Pankow, quartier résidentiel conservateur de la périphérie nord de Berlin. Il y a 4 ans, l'extrême droite a remporté ici plus de 14% des voix, score supérieur déjà à la moyenne nationale. Et on s'attend cette fois à passer largement la barre des 20%. 20%, c'est le score annoncé au niveau national. Les télés sont donc branchées sur les grandes chaînes d'infos allemandes qui prédisaient tout à l'heure une participation en forte hausse. On a sorti les ballons et les fanions aux couleurs bleu clair de l'AfD. Le visage d'Alice Weidel est partout. La chef de file du parti qui a imposé ses thèmes lors d'une campagne tendue, campagne bouleversée par plusieurs attaques commises par des étrangers. Des attaques qui ont alimenté le narratif de la submersion migratoire développée par l'AfD. L'AfD a par ailleurs bénéficié d'un soutien de poids, celui d'Elon Musk et de l'entourage du président Trump.
L'AfD qui s'attend à d'excellents résultats mais qui ne figurera pas au prochain gouvernement, Louise.
Effectivement, c'est un paradoxe. L'AfD est en dynamique mais va rester dans l'opposition. Le parti conservateur dont on attend ce soir la victoire a certes eu un flirt parlementaire avec l'extrême droite, acceptant de mêler ses voix aux siennes pour adopter une résolution anti-migrants au Bundestag fin janvier. Mais le fameux Brandmauer, le cordon sanitaire, reste une réalité en Allemagne et la CDU a exclu de gouverner avec l'AfD. Victorieuse dans les urnes donc et prescriptrice dans le débat politique, l'extrême droite ne sera pas au pouvoir, mais elle est à ses portes en embuscade pour 2029.
Les précisions à Berlin de Louise Baudet avec les moyens techniques de Fabien Gosset. À noter que les télévisions allemandes sont en train d'annoncer que les conservateurs remportent les élections législatives. Et l'Ukraine est l'un des enjeux de ce scrutin allemand. Il y a 3 ans, dans le pays, débutait l'invasion russe et désormais les interrogations sur la suite de cette guerre persistent, tout comme les tensions diplomatiques. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Washington et Kiev ne sont clairement pas alignés sur le sujet. Le président américain a qualifié son homologue ukrainien de dictateur cette semaine. Les États-Unis ont commencé des pourparlers avec Moscou sans les Ukrainiens. Le Kremlin a réagi aujourd'hui et juge prometteur le dialogue entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Moscou a aussi annoncé la tenue d'une réunion avec des diplomates américains en fin de semaine prochaine. De son côté, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait une intervention à Kiev cet après-midi. Nous sommes avec Agathe Mahué, notre envoyée spéciale en Ukraine. Agathe, numéro d'équilibriste cet après-midi pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien est resté ferme tout en évitant de contrarier le président américain.
Oui, et il a été grandement question de cet accord que Donald Trump veut conclure avec l'Ukraine sur ces terres rares. Nous progressons, assure ainsi Volodymyr Zelensky, dévoilant que des fonctionnaires américains et ukrainiens ont échangé aujourd'hui à ce sujet. Mais ce progrès semble tout relatif. Je ne signerai pas quelque chose qui sera payé par 10 générations d'Ukrainiens, nuance le président, en suite noire dans cette salle de conférence d'un grand hôtel de Kiev, devant 200 journalistes, alors qu'un responsable américain dit disait ce midi s'attendre à un accord sur les minerais ukrainiens dès cette semaine, Impossible, répond ce soir Volodymyr Zelensky, sans garantie de sécurité pour l'Ukraine. Lui qui répète son souhait de dialogue avec Donald Trump, mais pas en signant n'importe quel texte. On ne peut pas perdre notre dignité ou notre indépendance, se défend-il encore. Le président ukrainien qui est revenu précisément aussi sur ses relations avec son homologue américain, souvent avec un petit sourire en coin vu les tensions de ces 10 derniers jours. Non, je n'ai pas été offensé par ce terme de dictateur employé par Donald Trump. Vous savez, dit-il, ce sont les vrais dictateurs qui se vexent. Quant à ses alliés européens, Volodymyr Zelensky en accueillera une partie demain, ici à Kiev. 13 représentants étrangers présents, une vingtaine d'autres à distance, en ce 24 février, pour un sommet dont il espère que cela représentera un tournant.
Les précisions de notre envoyé spécial à Kiev, Agathe Mahué. L'actualité internationale de ce dimanche 23 février, c'est aussi le Liban, où les funérailles de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et celui qui devait lui succéder, Hachem Safieddine, ont eu lieu aujourd'hui. Hassan Nasrallah est mort en septembre dernier lors d'une frappe d'Israël sur la banlieue sud de Beyrouth, qui est un bastion du Hezbollah. Sur place, des dizaines de milliers de partisans du mouvement pro-iranien ont convergé vers la cité sportive de Beyrouth pour participer aux funérailles. Le chef du Hezbollah présent aux funérailles a promis de poursuivre la résistance contre Israël et a déclaré aussi qu'il refusait que les États-Unis contrôlent le Liban. Ce sont ses mots. Le récit de cette journée par notre correspondant au Liban, Arthur Saradin.
Un stade en marge de la capitale, une foule en larmes et le cercueil de Hassan Nasrallah qui apparaît soudain. À mort Israël, à tes ordres Nasrallah, c'est ce que hurlent des gradins bondés de sympathisants de Hezbollah. Certains sont venus d'Irak, du Yémen ou de Tunisie. Le nouveau leader de l'organisation, Naïm Qassem, prend la parole.
Nous sommes venus d'abord pour te prêter allégeance, Hassan Nasrallah.
Puis sur la stratégie du parti, il ajoute.
Nous allons donner sa chance à la diplomatie. En cas d'échec, nous aviserons.
À deux reprises, des chasseurs israéliens survolent le stade où la foule s'est réunie. Ils sont pourtant des milliers à poursuivre la procession vers le mausolée érigé dans la banlieue sud de Beyrouth. Mariam fait partie du cortège.
Il était le plus grand défenseur de la cause palestinienne, selon moi. Nous avons perdu beaucoup de braves hommes et nos maisons pour Hassan Nasrallah. Mon frère lui-même a été blessé pour sa cause durant la guerre. Je ne sais pas si je reverrai dans ma vie un homme de sa hauteur.
Nasrallah était déjà depuis plus de 15 ans une figure virtuelle qui n'apparaissait jamais en public. Son image est encore là, utilisée par le Hezbollah pour en faire un martyr absolu de sa cause. Pour le Hezbollah, après la débâcle de la guerre contre Israël, il s'agit de prouver que sa base populaire est encore active et massive et qu'elle se range encore derrière son leader, même après sa mort.
Notre correspondant au Liban, Arthur Saradin. À Mulhouse, l'incompréhension et la stupeur. Après l'attentat qui a fait un mort hier et blessé des agents et policiers municipaux, 4 personnes sont en garde à vue. Le principal suspect est né en Algérie et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il est aussi fiché au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. L'Algérie a refusé à 10 reprises de le reprendre sur le territoire, a affirmé de son côté le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Parmi les réactions au profil du suspect de l'attaque terroriste, Didier Lesky, le directeur de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été invité ce midi chez nos confrères de France Info. Pour lui, c'est l'incompréhension.
Et justement, ce n'est pas juridiquement explicable et c'est tout le problème en particulier avec l'Algérie, qui est un pays pour lequel on a, par exemple, en 2024, délivré 250 000 visas. On a autorisé 30 000 Algériens de nouveau à avoir un titre de séjour de longue durée. C'est dire si nous sommes vis-à-vis des ressortissants algériens et c'est en partie normal, assez ouvert. Et en même temps, les personnes algériennes en situation irrégulière sont les premiers à être contrôlés dans cette situation, plus de 30 000 l'année dernière, et l'Algérie ne veut pas participer d'une bonne coopération, et il y a eu moins de 3 000 personnes en situation irrégulière algérienne qui ont pu être éloignées, justement parce que il n'y a pas cette délivrance de ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, mais même plus, puisque maintenant, même quand les personnes ont leur passeport, eh bien, l'Algérie les refuse. C'est quelque chose qu'on n'avait pas connu dans cette ampleur-là, je dirais, depuis l'Union soviétique, qui était la caractéristique des pays staliniens, c'est que soit on empêchait les gens de sortir, soit on refusait qu'ils qu'ils rentrent dans leur pays quand ils en avaient envie.
Didier Lesky, le directeur de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, était invité ce midi chez nos confrères de France Info. Un conseil interministériel de contrôle de l'immigration prévu avant l'attaque de Mulhouse par le Premier ministre se réunira mercredi. La maire de Mulhouse, Michèle Lutz, a par ailleurs annoncé un rassemblement dans le centre-ville demain, lundi, à 19h30. Et puis, sur ces législatives en Allemagne, un mot donc, les conservateurs de la CDU sont donnés nettement vainqueurs. Le chef de file de l'extrême droite allemande salue, lui, un résultat historique pour l'AFD qui arrive en deuxième position. La météo de demain matin, temps très nuageux sur la quasi-totalité du pays, de la pluie pour le nord-ouest, température minimum 9 à Strasbourg, maximum 14 à Nice. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Jean-Guy Lermège. Merci.